Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur Transistor et vous écoutez le journal radiophonique amplifié qui démarre avec un petit peu de retard dont nous nous excusons évidemment. Il est donc 20h02 et c'est parti pour une heure d'actualité mixée, égalisée, montée et bien sûr amplifiée, chers auditeurs. Alors on commencera bien sûr avec le journal, on enchaînera avec un petit décortiquage, une revue de presse, un édito écho, nous prendrons rapidement les pieds dans le tapis avant de passer à la culture, puis aux sciences. Et un petit passage par le sport, ce coup-ci je ne t'oublie pas, ou presque, François-René. Merci. Mais donc, on rattrape tout de suite notre petit retard et on commence sans plus tarder avec l'info. Rebonsoir François-René, bonsoir Maë.
Bonsoir Rémi.
Avec un premier sujet, Afrique du Sud, Jacob Zuma, le chef de l'État empêtré dans des scandales de corruption, a finalement cédé aux pressions de son parti, l'ANC, et quitté le pouvoir hier. Dans une première apparition télévisée, dans l'après-midi, Zuma avait d'abord manifesté son incompréhension et son refus catégorique, assorti en conclusion d'une menace, celle que son limogeage mette beaucoup de gens en colère.
Face au tollé qu'a suscité cette stratégie d'intimidation, le désormais ex-président réapparaissait plus tard dans la soirée, annonçant finalement sa démission.
Outre les affaires judiciaires, les changements politiques au sein du parti de l'ANC faisaient déjà vaciller le trône. Cyril Ramaphosa, qui appartient à la faction social-démocrate de l'ANC, rival de la faction plus nationaliste de Jacob Zuma, a réussi à se faire élire président du parti lors des élections du parti en décembre 2017. Ramaphosa fut notamment un personnage clé de la transition démocratique post-apartheid. C'est lui qui négocia en 1991 la sortie de prison de Nelson Mandela et il doit désormais remettre le parti en ordre de marche, mais aussi une économie en perte de vitesse. Le chômage avoisine ainsi les 28%. Pour Jacob Zuma, 75 ans, c'est sans doute le début d'une longue série de procès.
C'est britannique, philanthropique et ça fait la une tous les deux jours ces derniers temps. Oxfam, ça vous dit quelque chose ? Oxfam, c'est ce monstre de l'humanitaire, confédération d'une vingtaine d'ONG dont les tentacules s'étendent aux quatre coins du monde, agités par des salariés et des bénévoles. Ça brasse des sous, beaucoup, des financements publics, mais aussi ses propres revenus, parce qu'à cette échelle de l'humanitaire, c'est un business, ça produit, ça vend, et ça fait du bénéfice que ça reverse, ou pas, ou plus, à ceux qu'on prétendait alors aider dans un premier temps.
En effet, le directeur international d'Oxfam a été arrêté mardi dans le cadre d'une enquête pour corruption au Guatemala. Une sombre histoire de contrat d'achat de bus dont évidemment il ne pensait pas avoir à mettre en doute la légalité.
Mais ce n'est pas tout, et parce qu'Oxfam visiblement aime à ressembler à une multinationale décomplexée, ce n'est pas des petits-enfants qu'elle exploite, mais des femmes.
En effet, les collaborateurs de l'ONG sont accusés d'avoir eu recours à des prostituées, parfois mineures, à Haïti et au Tchad, alors qu'ils étaient présents sur place pour une aide humanitaire.
Et comme jamais deux scandales sans trois, Oxfam est également épinglé depuis mardi pour des cas d'agression sexuelle, tentative de viol et viol, au Soudan du Sud, mais aussi dans des magasins tenus par l'ONG au Royaume-Uni, parfois des bénévoles mineurs. Oxfam, face à cette avalanche de scandales, réagit comme elle peut, avec notamment la démission de Penny Lawrence, directrice adjointe de l'organisation. Mais c'est peut-être un peu tard pour se réveiller. En effet, certains documents ayant fuité ont révélé que les cadres de l'ONG, en ce qui concerne le scandale d'Haïti, avaient connaissance des comportements douteux, voire pédophiles, de certains de leurs employés, sans qu'ils n'aient engagé aucune mesure. Alors, surtout, n'oubliez pas de faire des dons.
États-Unis cette fois, nouvelle fusillade dans un lycée de Floride, plus précisément à Parkland, une banlieue aisée de 30 000 habitants entre Miami et Palm Beach. 17 personnes, adolescentes et adultes, sont mortes sous les balles de Nicolas Cruz, 19 ans, un ancien élève du lycée qui avait été renvoyé pour indiscipline. L'adolescent, identifié par certains de ses camarades de classe, a été arrêté après une heure de poursuite dans la localité voisine de Coral Springs. Il est sous le coup de 17 chefs d'inculpation pour homicide volontaire avec préméditation. Les deux hôpitaux voisins ont par ailleurs fait savoir qu'ils soignaient 13 survivants, notamment pour des blessures par balle, dont 5 sont considérées comme dans un état critique.
La nouvelle de la fusillade a été, comme les précédentes, accueillie avec fatalisme par l'administration Trump.
Oui, aucun enfant, professeur ou quiconque ne devrait jamais se sentir menacé dans une école américaine, a tweeté Donald. Depuis le début de cette année, c'est pourtant la 18e fusillade dans une école aux États-Unis. Et pas plus de 2 jours ne s'écoulent sans qu'il y ait une victime dans des fusillades de masse, selon le décompte de... Je crois qu'on m'entend.
Vas-y, vas-y.
C'est bon ? Pardon. Sans qu'il...
Petit souci de micro.
Oui, petit souci. Je reprends. Pas plus de 2 jours ne s'écoulent sans qu'il y ait une victime dans des fusillades de masse, selon le décompte de l'association Everytown for Gun Safety. En octobre dernier, le Congrès avait brièvement affiché la velléité d'interdire les bump stocks, un accessoire qui bloque la détente, transformant un fusil ou pistolet semi-automatique en arme de guerre automatique. Mais rien n'a été fait depuis, sauf à l'échelle de certains États réputés progressistes, comme la Californie et le Massachusetts.
Macron tient ses promesses. C'était dans toutes les bouches mardi, le président compte bel et bien rétablir un service militaire ou civique national. Il pourrait durer autour d'un trimestre, a-t-il indiqué, voire plus si on choisit un service civique. Autant vous dire que les guignols qui croient échapper au treillis purgeront une peine plus longue. Alors à quoi ressemblerait ce service national? Eh bien en premier lieu, désolé les filles, il sera universel, voilà, on rigole moins avec notre féminisme à la con. On devra attendre avril pour avoir les détails de cette grande réforme, mais on sait déjà qu'elle se composera en 3 temps.
D'abord, une semaine annuelle de la défense et de la citoyenneté organisée par les lycées.
Les plus jeunes qui ont connu les cours d'éducation civique et les débats hautement construits du secondaire peuvent déjà s'en faire une idée.
Ensuite, on parle d'un rite de passage pour se faire rencontrer les jeunesses de France.
Et là, ceux qui gardent un souvenir...
les douches de l'armée.
Et là, ceux qui gardent un souvenir traumatique de leur JAPD savent à quel point les amitiés forgées ce jour-là ont été durables et constructives pour leur vie citoyenne.
Et oui, et enfin, pour les 16 à 25 ans, attention aux personnes nées après 92, le service en lui-même.
Et là, c'est flou, c'est une mélasse de civisme, militarisme, engagement. On ne sait pas trop à quoi s'en tenir, mais ça sonne bien, c'est patriotique. Ça remettra peut-être enfin cette jeunesse française mollassonne, égoïste et sans cervelle dans le droit chemin. Oui, parce que, inoccupés comme ils sont, ils ont le temps de s'intéresser aux réformes de l'université après. Les jeunes étaient dans la rue aujourd'hui encore contre la réforme du bac, la sélection à l'université Parcoursup dont vous parlez il y a 2 semaines. Ça se passait à la Sorbonne ce midi et notre correspondante parisienne était sur place. Bonsoir Marie.
Bonsoir Maë, bonsoir tout le monde.
Alors tu étais à la Sorbonne ce midi, est-ce qu'il y avait du monde ?
Alors au début on avait un petit peu peur quand même parce qu'on est arrivé sous la pluie battante et les gens étaient dispersés. On avait l'impression qu'on allait être à peine une centaine. On a eu un petit peu peur, mais finalement, quand le cortège s'est déployé, on a à peu près été, enfin, d'après ce qu'on a pu dire, on aurait été presque 1000. Donc voilà, c'est un peu mitigé, il y a moins de monde qu'aux deux premières, du 1er et 6 février, mais c'est moins catastrophique que ce qu'on aurait dû croire en début d'après-midi.
Ça reste raisonnable. Et qu'est-ce que vous avez fait? C'était juste un rassemblement? Vous avez défilé un peu?
Oui, c'était une manifestation qui est partie donc de la place de la Sorbonne et on a marché jusqu'à Denfert-Rochereau où on a dû disperser la marche puisque le parcours ensuite n'était plus déclaré.
D'accord. Alors en plus des magnifiques sons de slogans que tu as enregistrés et qu'on a un peu entendus, tu as aussi fait une petite interview pour nous, on écoute ça tout de suite.
Il y a 2 exemples à mon avis qui vont un peu dans le sens du fait que c'est pas du tout... Comment dire ? Qu'on prêche pas dans le désert. Le premier, c'est sur les lycées de banlieue. Moi, j'ai quelques échos et ça se bouge beaucoup plus que pendant la loi travail, d'ailleurs, parce que les lycéens se sentent directement concernés, parce qu'ils savent très bien que la sélection, ça les vise socialement, et donc ça les mobilise. Et ils s'organisent avec plein de difficultés, de répression, etc., et les difficultés des mouvements lycéens, bien en général. Mais ça, c'est un premier élément un peu significatif. Le deuxième, c'est que hier il y avait eu une AG et un blocage à Paris 1 qui a eu une sacrée résonance. Il y avait beaucoup de nouveaux étudiants en AG qui ne sont pas militants, qui viennent pour s'informer et pour savoir comment s'organiser pour la suite. Donc oui, ce n'est pas des AG à 800 ou à 1000 comme ça a pu être par le passé. Par contre, c'est des noyaux qui s'organisent, des gens qui s'informent. Bon, et le problème, c'est comment est-ce qu'on peut filer à tous ces gens-là des perspectives? Comment est-ce que tous ceux qui sont à la manif, là, qui sont militants du mouvement, ils peuvent proposer des choses pour que ça s'amplifie et pour qu'on se prépare, quoi. Donc en fait, pas si démoralisant que ça, l'ambiance, au contraire.
Alors, est-ce que tu l'as ressenti comme ça, Marie, le fait que les jeunes se sentent directement touchés, concernés par ces prochaines lois ?
Alors, c'est un petit peu difficile à dire. Donc, c'est vrai que l'étudiant qu'on vient d'entendre est particulièrement, plus optimiste que d'autres. Puisque, alors aujourd'hui, il n'y avait pas tant de monde que ça. Je pense que c'était un peu difficile de se faire vraiment une idée. Mais d'autres, on a eu d'autres avis qui divergent un peu quand même de celui qu'on vient d'entendre. Par exemple, de gens qui ont pu tracter sur les campus. Ils disent qu'ils voient quand même des étudiants un peu moins réceptifs que pour d'autres mesures, alors que ça les concerne quand même directement. Et certains qui sont quand même déçus de voir en AG, par exemple, à une fac comme Nanterre, on est seulement 100 ou 120 personnes pour quand même plus de 30 000 étudiants. Donc finalement, le constat, selon les avis, soit positifs, pessimistes ou positifs, tout le monde déplore en tout cas un assez manque de communication globale, d'information finalement sur ce qui se joue vraiment. Et c'est ça qui avait amené, je pense, surtout les gens aujourd'hui que j'ai pu rencontrer, c'était d'essayer de faire parler un peu plus de ce qui se passe parce qu'ils ont l'impression que personne n'est vraiment au courant.
D'accord. Voilà. Et bon, en tout cas, merci beaucoup pour ces sons et pour être avec nous ce soir en direct. Alors, comme vous le voyez, la mobilisation contre la loi Vidal, Parcoursup et les réformes du gouvernement sur l'enseignement supérieur continue. Et avant de continuer ce journal, un dernier son pour se quitter en musique. Et c'est parti pour le sujet long à présent.
Et le mouvement Nuit Debout se poursuit.
Des fascistes, des réactionnaires.
C'est même étendu ces derniers jours en région.
Tous les sujets seront abordés, il sera mon invité en direct.
Mardi, entre autres grandes révélations, Macron s'est exprimé sur la Syrie.
Si la France a des preuves avérées que des armes chimiques proscrites sont utilisées contre les civils en Syrie par le régime, nous frapperons, a-t-il dit. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de manière sûre établie par nos services. Nous n'avons pas de manière sûre établie par nos services la preuve que des armes chimiques proscrites par les traités ont été utilisées contre les populations civiles.
C'est donc l'occasion pour nous de revenir sur le conflit qui a lieu en Syrie depuis 2011 et d'en récapituler les enjeux.
Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de la guerre civile en Syrie ?
Elle commence dans le contexte du printemps arabe avec des manifestations pro-démocratiques majoritairement pacifiques contre le régime de Bachar al-Assad. La répression est brutale et une rébellion armée s'organise. Sauf que peu à peu, les jeux d'acteurs se mettent en place. Les rebelles sont soutenus par les pays du Golfe et de l'Occident, principalement l'Égypte, la Turquie, le Qatar et les US, tandis que le régime peut lui compter sur l'appui du Hezbollah et de brigades islamistes chiites irakiennes et surtout de l'Iran et de la Russie. À cela s'ajoutent les salafistes djihadistes qui viennent compliquer le tout en agitant sous le nez des puissances occidentales la carte du terrorisme.
Et la population syrienne dans tout ça ?
500 000 morts, environ des milliers de personnes disparues dans les prisons du régime, vraisemblablement torturées et exécutées, des massacres, des crimes de guerre, des attaques à l'arme chimique, la moitié de la population déplacée et un quart qui a pu quitter le pays.
Et justement, Macron a dit que la France interviendrait si l'utilisation d'armes chimiques est avérée.
Oui, c'est bien ce qu'il a dit, sauf que, parce qu'il y a un sauf. On en avait parlé dans le JRA du 26 octobre, l'ONU a déjà essayé de commanditer des missions d'enquête pour établir la preuve de l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Mais la Russie fait jouer à chaque fois son droit de veto parce qu'elle soutient le régime de Bachar al-Assad. Les mauvaises langues diront qu'empêcher qu'une enquête ait lieu, c'est probant, mais bon. Parce qu'en fait, ce ne sont pas les images et les témoignages qui manquent. Vous pouvez, si vous voulez, aller jeter un œil sur la page Facebook Syria Charity. Vous profiterez entre les selfies de vos amis de jolies vidéos montrant des cadavres, des enfants et des adultes amputés, ensanglantés, des hôpitaux bombardés, des bébés qui ont des terres vivants sous les décombres de leur maison. Vous verrez de vos yeux les brûlures vraisemblablement provoquées par des attaques au chlore. Mais ça, ce ne sont pas des preuves, comme le réaffirme la Russie. On n'a aucun moyen de savoir qui a perpétré ces attaques. Mais bon, rassurez-vous, comme dit Macron, il est certain que la France réagira en cas de crimes de guerre, de violation des conventions internationales.
Vous écoutez le journal radiophonique amplifié de Transistor.
Merci beaucoup à tous les deux, Maë et François-René, pour ce journal particulièrement vivant ce soir. Et merci à Marie donc pour son duplex depuis Paris et ce retour sur la manifestation d'aujourd'hui, manifestation dont on ne peut que se lamenter qu'elle n'ait même pas eu lieu à Lyon, c'est dire si la mobilisation trépigne. Il est 20h17 sur Transistor, on te retrouve François René, c'est l'heure du décortiquage.
Décortiquage.
Si c'est pas assez bien cassé, ben je finis avec mon couteau.
Comment décortiquer ?
Comment décortiquer ?
Et nous allons présenter des méthodes simples justement pour le décortiquer.
Avez-vous entendu parler des subalternes ? Aujourd'hui, ce sont celles et ceux qui sont les objets d'études des subaltern studies, l'un des courants historiques les mieux implantés dans les universités anglo-saxonnes. L'un des textes clés de ce courant porte le titre provocateur « Les subalternes peuvent-elles parler ?», suggérant par là que la parole des classes subalternes est confisquée.
Alors d'où vient ce terme de subalterne ?
Alors il vient des réflexions d'Antonio Gramsci. Ce philosophe marxiste fut un membre fondateur du Parti communiste italien.
Brave homme.
Oui, tout à fait, s'il en est. Et il fut même à la tête du parti.
S'il en fut, hélas.
S'il en fut, hélas. Pendant un temps, de 1924 à 1927. Il est ensuite emprisonné par le régime mussolinien de 1927 jusqu'à sa mort en 1937. C'est là qu'il écrit la majeure partie de son œuvre, qui est regroupée dans ses cahiers de prison. Alors, dans ses écrits précarcéraux, on trouve épisodiquement le terme de subalterne, qui est d'abord emprunté au vocabulaire militaire pour désigner des classes de soldats. C'est dans un paragraphe du cahier 3 que pour la première fois, le terme de subalterne se réfère à des classes. Les classes subalternes sont ici opposées aux classes dominantes. Elles sont socialement dominées, mais elles opposent une résistance et cette forme d'autonomie qu'elles manifestent dans la résistance leur permet de s'affirmer politiquement. Et cette lutte politique a pour objet, selon Gramsci, l'hégémonie, concept absolument gramscien s'il en fut. Le terme permet donc à l'auteur de proposer une version plus souple de la lutte des classes dans laquelle ce n'est pas nécessairement le prolétariat qui doit faire la révolution, mais les classes dominées, de manière aussi un peu plus vague. À partir des années 80, le terme de subalterne est repris par un groupe de chercheurs sud-asiatiques, le Subaltern Studies Group, SSG. Si ces auteurs se réclament de la gauche, ils se montrent en revanche critiques quant à la lecture marxiste traditionnelle de l'histoire de l'Inde et de l'Asie du Sud. En particulier, ils critiquent l'idée selon laquelle ce serait la prise de conscience politique des élites indiennes qui aurait incité les masses à la résistance et à la rébellion contre les colons britanniques. Les études subalternistes, comme on les appelle, privilégient en général plutôt un recentrement sur les subalternes et non les élites, comme étant les véritables agents du changement social et politique. Pour le dire à l'américaine, c'est fondamentalement une approche d'un top.
Merci beaucoup François René. Il se passe des trucs dans ce studio, décidément. Merci beaucoup pour ce décortiquage qui nous a permis de retrouver ce cher Antonio. Et à 20h20, on se tourne vers Marie. C'est l'heure de la revue de presse.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
La revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Alors on commence cette revue de presse avec l'homme de la situation, j'ai nommé Jean-Michel Blanquer. Bonsoir Marie d'ailleurs.
Bonsoir Rémi. Alors oui, les quotidiens nationaux n'ont qu'un seul nom sur leurs lèvres de papier depuis ce matin. Super Blanquer ! Le beau gosse du gouvernement, le numéro un du macronisme, le ministre de l'éducation nationale, le plus populaire depuis Jules Ferry. Non, je déconne, c'est pas moi qui le dis, c'est l'éditorialiste du Figaro, je cite. La droite se pince pour vérifier qu'elle ne rêve pas. La gauche ne parvient pas à le contester. L'opinion le plébiscite. Rarement ministre de l'éducation nationale aura bénéficié d'une telle aura. Bref, tout le monde ne parle que de la réforme du bac annoncée hier. Alors la Croix titre en toute sobriété « Bac et lycée, le Big Bang ». En une de Libération, un bandeau minimaliste « Bac, un totem est tombé ». Bon, sinon, on la joue un peu plus personnalisation de la réforme, ce qui donnera comment Blanquer va transformer le bac et le lycée en couverture du Monde, ce sera demain. Et carrément, Blanquer s'impose comme l'atout réformateur de Macron en une du Figaro aujourd'hui. Chez Valeurs Actuelles, c'est carrément la grosse tête du ministre affublée du qualificatif « la nouvelle star ». Et sur la une du Point, son visage un peu plus dans l'ombre, mais surnommé « le vice-président ». Vous reprendrez bien un petit peu de Jean-Mi ? Alors, il faut imaginer le blanc chevalier Blanquer, sa lance dressée contre le totem, le mammouth. Mammouth qui doit manifestement être la vieille métaphore journalistique pour désigner le baccalauréat, je ne savais pas. En tous les cas, il y en a un qui a le sourire jusqu'aux oreilles, c'est l'éditorialiste du Figaro, encore lui. Enfin, un ministre de l'éducation nationale qui enchaîne les réformes, qui balaye les syndicats d'enseignants et d'étudiants, qui bazarde l'héritage de Vallaud-Belkacem et qui veut en finir avec l'égalitarisme. Oui, non à l'égalitarisme, ce sont ces mots. Franchement, est-ce qu'on pourrait être plus ravis ?
Mais je crois pas, hein, non ? Et puis la presse nous présente Blanquer comme le champion macroniste par excellence.
Alors dans ses colonnes, Libération propose un portrait du ministre sous le titre « Jean-Michel Blanquer, le macronisme avec mention ». Tout est dit, on nous y décrit l'homme à la voix timide, celui qui présente ses réformes comme ni de droite, ni de gauche, bref, de simples mesures de bon sens. Des mesures qui plaisent énormément à La République En Marche, bien sûr, aux Républicains aussi, trop heureux qu'on dise non au portable et à l'écriture inclusive. En 2004, sous la pression des lycéens, Chirac avait dû revenir sur sa réforme du bac. En 2018, ça passe manifestement comme une lettre à la poste. Alors pourquoi s'interroge le journaliste Alain Auffray ? Vraisemblablement, ce serait l'influence des classements et de toutes ces études internationales qui classent notre système éducatif comme étant l'un des plus calamiteux au monde. Alors derrière ce crâne chauve, il n'y aurait aucune velléité politique, rien que le désir sincère d'accomplir ces réformes et de redevenir professeur, selon l'entourage de l'intéressé. Enfin, professeur. Monsieur Blanquer est surtout haut fonctionnaire et recteur. Dans les faits, il passe pas trop de temps devant les classes. Luc Ferry dit de lui qu'il est le grand atout de Macron pour siphonner la droite. Et le journaliste de Libé de conclure, je cite encore, « ce qui fait beaucoup, tout de même, pour celui qui se défend complètement d'être un homme politique ».
Après, on va peut-être pas parler de notre bien-aimé ministre pendant toute ta revue de presse, si.
Non, rassure-toi, le One Blanquer Show, c'est un peu fatigant, donc je ne dirai qu'une chose à propos de cette réforme du bac. Toujours dans Libération, vous trouverez, si ça vous intéresse, un petit article dédié au SES, alias les sciences économiques et sociales, telles qu'on les enseigne au lycée, et dont le volume horaire va grandement baisser à partir de 2021. On y apprend notamment dans cet article que, selon l'Association des professeurs de sciences économiques et sociales, c'est sous la pression du MEDEF que les contenus des cours ont grandement évolué ces dernières années. Le lobby patronal, je cite, « considère que les SES seraient compassionnels, néfastes, qu'on aborderait négativement l'étude de la société française, en gros qu'on déprimerait la jeunesse ». Ils ont donc toujours voulu que les SES soient moins axés sur les problématiques économiques et sociales contemporaines et plus sur le fonctionnement de l'entreprise et de l'économie du marché. Je vous laisserai donc apprécier cette belle collusion entre le MEDEF, l'enseignement public, la portée critique de la sociologie de l'économie, l'État, le pouvoir, les intérêts privés.
Et on parle maintenant d'une controverse journalistique, Marie.
Alors, si vous suivez un petit peu l'actualité des médias, vous avez entendu parler sans doute de ce nouvel hebdomadaire lancé mi-janvier et baptisé Hebdo sans H. Bon, jusqu'ici, ce nouveau média se revendiquait citoyen et indépendant, et pour tout vous avouer, je n'ai pas eu le temps vraiment de mettre le nez dedans, donc j'ai pas tellement d'avis sur ce nouveau média. En revanche, il m'est revenu aux oreilles que le numéro de vendredi dernier proclamait que Nicolas Hulot était coupable d'un viol et de harcèlement sexuel. Réponse du canard enchaîné pas plus tard qu'hier. Hulot, victime de l'échauffement climatique... Non, pas climatique justement, médiatique. Victime de l'échauffement médiatique.
T'as raté ta blague.
Mais c'est pas la mienne en plus, c'est le titre du canard enchaîné. Je fais pas des jeux de mots si pourris. Le palmipède démonte l'enquête des deux journalistes d'Hebdo. La plainte pour viol a été classée sans suite et surtout la victime avait demandé à ce que l'affaire ne soit pas médiatisée, donc ce serait quand même pas mal de respecter son consentement. Quant à l'ex-collaboratrice de Hulot qui a peut-être été harcelée, elle a démenti. Bon alors bien sûr, au canard, ils ironisent comme ils savent si bien le faire. Je cite, et maintenant, que va faire le journal du 21e siècle ? Dans ses couloirs, on promet du rab, de la cuisse, des témoignages de nouvelles femmes agressées par Hulot. Espérons pour Hebdo que les faits seront mieux étayés que les précédents. Tremblez, kiosquiers, l'ouragan Hebdo revient en 6e semaine. Alors au-delà de l'ironie, je trouve ça quand même assez dommage pour la visibilisation des violences faites aux femmes et pour le féminisme en général. Je trouve ça vraiment dommage que cela devienne un genre de course à l'affaire sensationnelle avec un travail journalistique bâclé, pour ne pas dire franchement mauvais. Je ne dis pas que Nicolas Hulot n'a rien fait, je n'en sais rien. Je dis simplement qu'il faut prouver ce qu'on avance. Donc pour le moment, l'Hebdo peut mieux faire et j'attendrai donc de voir la suite. C'est tout pour la revue de presse de la semaine. Merci de l'avoir suivi.
Et pour ce que j'en ai lu et pour donner un avis étayé moi-même, bah c'est pas bon, Hebdo.
Eh bah, c'est dit.
Jingle. Ah, mais ça va beaucoup trop vite, malheur. Décidément, Robin, oui. Tu n'arriveras pas à placer ton chiffre, mais vas-y, je t'en prie.
La régie m'a coupé mon chiffre, quoi.
Alors, n'importe le chiffre de la semaine, Robin.
C'était 3 milliards d'euros, c'est le budget de l'Union européenne réservé spécialement à l'aide au développement pour dissuader l'émigration des pays d'Afrique.
Pas de jingle.
En fait, c'est une aide qui est débattue depuis la fin de l'année dernière et dont le but serait de s'adresser aux causes profondes, donc je fais des guillemets, vous ne pouvez pas le voir, aux causes profondes de l'émigration africaine. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler d'un rapport qui est sorti la semaine dernière et qui cherche à montrer que ces aides sont probablement très très mal dirigées.
Alors dis-nous tout, Robin.
Il s'agit d'un rapport du Center for Global Development, rédigé par Michel Clements et Anna Postel. Le rapport présente des données sur les impacts d'aide au développement dans le passé, ainsi que sur le lien entre le développement et l'émigration, et il montre en fait que l'aide au développement a plutôt tendance à augmenter l'émigration.
C'est assez contre-intuitif. Comment est-ce que les auteurs l'expliquent. Décidément, mais c'est une catastrophe. On est en train de démolir ton éditeur.
Ouais,
alors comment les auteurs expliquent-ils cela, Robin?
Les auteurs s'appuient sur de simples constats empiriques d'abord. Il y a une importante littérature en économie du développement sur ce sujet, et la grande majorité des études aboutissent à la conclusion que la relation entre le développement d'un pays et l'émigration n'est pas une relation linéaire, mais plutôt une relation en cloche, une courbe en cloche. L'émigration est assez faible dans les pays les plus pauvres, puis augmente en même temps que le PIB par habitant, jusqu'à atteindre à peu près le niveau de PIB par habitant mondial moyen, à partir de quel moment la relation devient négative, c'est-à-dire que quand le PIB augmente, il y a moins d'émigration. Alors bien sûr, il y a d'autres facteurs explicatifs, mais cette relation tendrait plutôt à montrer que l'aide européenne vers les pays d'Afrique aurait tendance à augmenter l'émigration, le contraire de son objectif, donc.
Et justement, je répète ma question, comment est-ce que les auteurs l'expliquent?
Oui, après le constat empirique, ils développent certains mécanismes. Il faut avoir en tête que ce sont des résultats assez solides en économie du développement, que les incitations principales à l'émigration dans les régions rurales pauvres sont notamment le fait que l'émigration est perçue comme un investissement. Pour vous en donner une idée, j'avais envie de vous raconter l'histoire d'un ami à moi, un jeune migrant du sud du Mali que j'ai rencontré l'année dernière. Alors il venait d'une petite famille de fermiers et avait décidé d'émigrer pour aider sa mère après que son père soit décédé. Au moment du décès de son père, il a reçu en héritage une vache et c'est en échangeant cette vache avec un passeur qu'il a réussi à venir jusqu'en France au terme d'un parcours assez terrible d'ailleurs. Et on voit bien ici que l'émigration pour lui était un investissement, enfin pour sa famille surtout, avec deux versants. Il s'agissait d'abord de se priver d'une ressource, ici la vache, dans l'espoir d'augmenter, c'est le deuxième versant, le revenu de la famille plus tard, avec l'envoi notamment d'argent depuis la France. Donc ce qu'il faut retenir, je pense, dans cette histoire, c'est que l'occasion qu'a eu mon ami d'émigrer n'était pas donnée à tout le monde dans son village. Il fallait qu'il ait reçu une vache, pour pouvoir payer le passeur et venir jusqu'en France. C'est une ressource que tout le monde n'avait pas. Et là, c'est une ambiguïté des motifs d'émigration que les auteurs du rapport pointent. D'un côté, en améliorant la situation économique de familles comme celle de mon ami, on rend l'émigration moins nécessaire, parce qu'on a moins besoin de compléter ses revenus. L'investissement est moins attrayant. Mais d'un autre côté, en augmentant les ressources, l'investissement devient davantage possible, et possible pour plus de gens, notamment les plus pauvres.
Mais ça semble assez cynique, vu comme ça, pousser à bout cette logique voudrait qu'on maintienne certains pays d'Afrique dans la pauvreté pour éviter que les habitants n'aient les moyens de se payer le voyage jusqu'en Europe.
Oui, je te l'accorde. Mais en fait, c'est pas du tout ça le propos du rapport. C'est certain, en fait, qu'une aide de l'Europe vers des pays pauvres qui permettent d'améliorer les conditions de vie est toujours la bienvenue. Simplement, et l'apprenti économiste que je suis ne peut être d'accord, il faut bien comprendre les mécanismes sous-jacents quand on fait une politique de ce genre. Il faut se fixer les bons objectifs. Une politique d'aide au développement ne peut pas avoir pour but de dissuader l'émigration. Ça ne marchera probablement pas. Et ça risque au contraire de rendre l'aide inefficace en la distribuant en mal, par exemple en ciblant l'emploi plutôt que les systèmes de santé ou d'aide humanitaire. Finalement, une politique d'aide au développement de ce genre ne doit surtout pas être faite dans cet espoir de se débarrasser des vagues migratoires. Pardon. Au contraire, elle doit nécessairement aller de pair avec des dispositifs d'accompagnement de la migration, et notamment se poser des questions, notamment se poser des questions de la modalité de la migration et du passage donc des pays aux autres, qui sont souvent terribles. Au bout de la chaîne, il faut aussi mettre en place des politiques pour accueillir les migrants, bien sûr, et ça c'est une vaste question que l'on débat depuis un moment aujourd'hui.
En effet, Robin, et merci beaucoup pour cet édito économique qui éclaire sous un angle un petit peu différent un drame malheureusement omniprésent dans notre actualité. Il est temps de terminer avec une dernière actu, et je vais moi-même commencer par un chiffre, Robin. 50, c'est le nombre de personnes SDF dans les rues de Paris. Cinquante est un chiffre éloquent, voyez-vous. 50, s'il se passe de réponses, soulève des questions, de ces questions qui vous brûlent les lèvres et les méninges. Vous pensez qu'il y a la place de loger 50 SDF dans la salle de presse que Macron a fermée à l'Elysée pour ne plus être emmerdé par les journalistes? Est-ce que si Gérard Collomb logeait un sans-abri chez lui, il n'y en aurait plus que 49 sans-abri? Est-ce que le prof de maths de Julien de Normandie, secrétaire d'État au logement, est devenu SDF après avoir été viré de l'Éducnat? Est-ce qu'il faudrait rétablir le service militaire pour les SDF? Est-ce que si l'on instaurait un service militaire de 50 mois, on aurait l'impression que 50 SDF, ça fait beaucoup? Est-ce qu'il y a eu plus ou moins de 50 morts de la grippe cette année? Est-ce qu'il y a eu plus ou moins de 50 mètres d'inondation à Paris? Est-ce qu'il y a eu plus ou moins de 50 victimes dans la guerre que nous laissons se poursuivre en Syrie? Est-ce qu'il y a eu plus ou moins de 50 squelettes retrouvés dans les fosses de Treblinka? Est-ce que Julien de Normandie sait répondre à ces questions en moins de 50 secondes? Qu'est-ce que ça représente, 50? Est-ce que c'est 50 fois une vie détruite, un corps en ruine, une mort au quotidien, 50 fois la neige en hiver et la soif en été, 50 fois la BAC et les caïds qui font régner une loi, 50 fois centenaire, 50 fois les rangées de dents qui claquent et 50 bouteilles de gros rouge englouties pour oublier 50 fois la misère et le désespoir? Ou est-ce que 50, c'est un chiffre? Est-ce que 50, c'est différent de 51 ou de 50 000? Est-ce que c'est mieux que 50 000? Est-ce que c'est du travail bien fait? Est-ce que c'est une fierté politique? Combien a coûté le taxi qui a conduit Julien de Normandie de la profondeur douillette de son fauteuil de secrétaire d'État inutile et de sa médiocrité boursouflée de mépris de classe façon start-upper aux dents qui rayent la morale, pour le conduire, disais-je, vers les plateaux télé où il est allé vomir sèche son chiffre et sa bêtise? Ah, 50 euros à tout casser?
Jusqu'à 21h, le journal radiophonique amplifié de Transistor.
Et c'est l'heure de passer à une culture peut-être un petit peu plus reposante que les extraits musicaux que je vous impose. Et sous le doux regard du poulpe que vous nous amenez dans ce studio, les auditeurs n'en sauront pas plus. Bonsoir Léa, bonsoir Sarah.
Bonsoir Rémi. Alors le poulpe s'appelle Madame.
Bonsoir Madame. C'est à vous, je vous en prie.
Bon, on va commencer avec Sarah. Sarah qui vient de me souffler à l'oreille une sorte de tautologie. L'Europe swing avec Europe. Mais qu'est-ce que tu entendais par là, Sarah?
J'entends, ma chère Léa, du jazz. De magnifiques déhanchés de notes où le saxo et la peau cuivrée de l'orchestre du 369e régiment d'infanterie s'épousent, éclatèrent la semaine dernière à Nantes, d'après Le Monde, et surtout, d'après La Libre Belgique. Lisez ce journal, car mon ami Colin y écrit de jolis articles tout en musique. Mais revenons-en au 369e régiment d'infanterie, c'est-à-dire au Harlem Hellfighters, l'orchestre de ce régiment d'infanterie, et cessons enfin cette insupportable publicité non mensongère dont je fais tout le temps preuve. Il y a 100 ans, le roi du jazz, James Rees Europe, débarquait à Brest. C'est là qu'il enflamma la France, ou la carbonisa vu la couleur, avec sa musique déjà bien connue en Amérique. On ne dirait pas, mais derrière ces lunettes rondes d'un télo bobo et ce képi de lieutenant, notre Coco était un arrangeur, compositeur, bref, un musicien avant d'être un mirlitaire. Comme quoi, le mirliton sonne parfois mieux que la trompette de guerre. On vient de me mettre madame sur la tête. Notons que Europe avait créé en 1910 le premier syndicat de musiciens afro-américains, le Clef Club, enfin Klee Club, et que son orchestre symphonique de 125 musiciens, c'est quand même un chiffre, ce n'est pas 50, a été le premier orchestre noir américain à jouer au Carnegie Hall de New York en 1912. En somme, on a pionnier avant l'heure. Bon, ceci est un mauvais jeu de mots avec la marque électronique ou je ne sais trop quoi.
Et alors, quel type de jazz préférait-il ?
Je crois qu'il s'intéressait tout particulièrement au ragtime et à la musique populaire américaine. C'est très difficile, je vous l'assure, de se concentrer avec un poulpe sur la tête. Le ragtime, c'est cette musique un peu hésitante, chevrotante parfois, ou bien rutilante, qui oscille entre le par cœur bien connu par les doigts et le doute. C'est à mi-chemin entre l'impro et la lecture de partition. Quand j'étais en troisième, ouf, ça ne rajeunit pas nos auditeurs, ça, ni Marie, ni François-René, ma prof de musique nous avait expliqué qu'au sortir de l'esclavage, une partie des Noirs d'Amérique avait décidé de s'orienter vers la musique. Bah oui, ils avaient l'expérience du chant avec toutes ces balles de coton. Enfin, je plaisante. Certains avaient été domestiques dans de grandes familles où l'on apprenait, comme il convient, à jouer du piano. L'élégante réconciliation entre Noirs et Blanches. Et après avoir secoué les chaînes de l'esclavage, ils profitèrent de tous ces concertos privés pour exercer leurs propres menottes. Problème, la plupart de ces gens ne savaient pas lire et encore moins déchiffrer ce truc tout embrouillé qu'est une partition. Il s'agissait alors d'exercer son oreille pour ensuite retrouver les bons sons sur le clavier. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, ou si vous êtes suffisamment alpha musico-bête pour ne pas avoir à le faire, à moins que vous ne soyez tout à fait bête, auquel cas on vous le pardonnera, ne vous en faites pas. Mais ce n'est pas toujours facile. Parfois les notes coulent de source, mais il arrive souvent qu'une hésitation survienne. C'est peut-être cette vulnérabilité en fait, cette fragilité enjouée, car on assume dans le ragtime, que j'apprécie. Quoi qu'il en soit, c'est sans doute une version de la jeunesse de ce type de musique, apparentée au jazz. Bon, il doit exister plusieurs mythologies dessus, et puis, comme toute chose, ça a évolué ensuite.
Et alors pourquoi est-ce qu'on n'entend plus parler du roi du jazz, comme tu l'appelles ?
S'il permit au genre de faire danser les Européens sur la scène, il mourut au milieu d'autres étoiles. Alors je m'explique, parce que c'est très métaphorique tout ça. Lorsque James Rees Europe a lancé les premiers accords de la Marseillaise version Harlem Hellfighters, les Français se sont retrouvés stupéfiés, bâillonnés, ligotés. Oh oui ! Je voulais dire étonnés. Une telle reprise, ça se remarque. Lorsqu'il fut assassiné par un compagnon d'armes en 1919, James Rees Europe avait déjà lâché le cuivre des saxos pour un autre, celui des balles, malheureusement, et pas celle de coton. Ce qui n'avait pas empêché à d'autres icônes du jazz de saisir le saxo, eux, pour triompher de la musique des Blancs. Je précise qu'à cette époque, un des enjeux de ces rois du jazz fut quand même de trouver leur propre voix, leur musique à eux, sans être accusés de plagiat sur la musique blanche. Et vous connaissez peut-être Duke Ellington ? Il fait partie de ces géants qui ont conquis la scène musicale après Europe et ont sublimé un peu plus l'Europe.
Et alors Sarah, tu me disais que ça se passait à Nantes, dans tout ça ?
Oui, en fait, le concert en hommage se déroulait à Nantes ce lundi 12 février en compagnie de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, et des trois petites filles de James Rees Europe. Alors, je cite la plaque commémorative installée sur la scène du théâtre Grasselin de Nantes. « Ici, le 12 février 1918, s'est joué le premier concert de jazz sur le sol européen, avec 40 musiciens et soldats d'exception qui ont éveillé plutôt l'Europe au jazz, cette musique qui fait parfois un peu plus fureur dans les salons que les testaments d'ex-égérites déshéritant leurs enfants. »
Et je t'ai vu griffonner en toute hâte un truc sur les giboulées tout à l'heure, Sarah. Mais on n'est pas encore en mars ? Ou alors, qu'est-ce que tu
Surtout
voulais dire
pas.
Est-ce que c'était un encodage scriptomaniaque ?
Ah ben Léa, on ne se refait pas, j'adore ça. Non mais pourtant, ce n'était pas une de mes prophétisations divino-sacerdo-hiero-visionnero-décalées, non. Les giboulées, à mettre entre guillemets, exigent que l'on traverse la France de bout en bout afin de joindre l'Est. Après la côte, les goélands, pourquoi est-ce qu'on parle toujours des mouettes ? Et les galettes, nous voici derrière les Vosges et leur célébrissime grès rose. Je sais que Transistor en apprécie la couleur. Cela se passe au TJP de Strasbourg, situé rue de l'Abreuvoir, un peu rue de la Soif version alsacienne, c'est-à-dire sans trop de changements, sinon la carte, des boissons. Léa, ne fais pas cette tête. Un ivrogne, c'est un ivrogne, qu'il soit à Rennes ou à Navarre. Cela ressemble grosso modo à une patate qui flanche de gauche à droite, déguenillée et vomisselée.
Oui, bon ça va. Et les giboulées alors ?
Mais je vous explique. J'ai reçu il y a peu un charmant carnet jeune pétard dans ma boîte aux lettres. Pas une gueulante comme dans Harry Potter, mais un criard. Dessus était écrit, je cite, « Les Giboulées, Biennale internationale 16/24 mars, Centre dramatique national TJP, 27 compagnies, 14 pays, 73 représentations, 13 lieux, espace, engras, corps, texte, marionnette, engras, objet, figure, son, matière, engras, image. » Fin de la citation. Le TJP, je vous en avais déjà parlé, c'est un théâtre assez original et très moderne. D'ailleurs, c'est peut-être parce qu'il est moderne qu'il est original. De nos jours, on a tendance à confondre les deux. Et il s'y joue parfois des pièces engagées. La dernière fois, c'était l'agonie solitaire et délirante d'une féministe avec les incroyables marionnettes d'une artiste d'un pays scandinave. Bah oui, hein, parce qu'on aime le Nord, c'est très très chic, comme le gratin de graines de beurre à ca butternut parsemé de quinoa et de caroube du Pérou. Les oiseaux meurent, d'après certains. Mais revenons-en au giboulé. D'ailleurs, c'était à 19h que commençait la soirée de présentation du festival, donc je ne pourrais que maigrement gloser, puisque je suis ici et c'est pourquoi je fais plein de jeux de mots débiles. D'après mon papier jaune criard et donc remarquable, espérons qu'il en sera de même pour le festival, je veux dire, pas criard, mais remarquable, l'enjeu est de faire se croiser différents traitements, en fait, portés sur le corps au théâtre. Diverses écoles d'art se rencontreront donc en mars, le temps des giboulées, proposant chacune une manière de voir, d'expérimenter, de vivre son corps sur scène. Et cela passe surtout par l'intermédiaire de la marionnette. Dans une société robotisée comme la nôtre, quoi de plus inquiétant que ce corps automate, de ces gestes mécaniques que l'on finit par surprendre chez son voisin, Léa, ou chez soi, Sarah. Maintenant que les mots ne sont plus élégamment tracés à la main, mais tapés sur l'ordinateur comme mon script, que signifie le verbe ? Je veux dire le verbe avec une majuscule. Moi aussi je joue sur la typographie. Le principe qui nous anime chacun. Et si les marionnettes étaient vivantes en fait ? Ou nous invitaient tout simplement à mieux percevoir le monde qui nous entoure ? La texture de ma chemise sur ma peau hérissée, le roulement des mots dans ma bouche, la saveur de l'air pollué et du riz quotidien. Enfin, je veux bien, mais les marionnettes, ça n'a pas de système digestif. J'en déduis d'ailleurs que le vivant se distingue par un système digestif. Si vous souhaitez euréquer comme moi, c'est-à-dire avoir une trouvaille, partez à l'est, rue de l'Abreuvoir. Parfois, c'est aussi dans un verre qu'on trouve la vérité.
Et j'ajoute que tout ça, ça se passe pas au TJP en fait, mais pas seulement, c'est aussi au Musée d'art contemporain, à l'Espace K, à Schittlingheim, etc., etc. Et alors Sarah, on n'a pas notre traditionnel coup d'œil sur la capitale ce soir ?
Ah, mais si, bien sûr. Mais voyons, enfin, je fais partie de ces gens qui retournent très souvent à Paris. Non, je plaisante. Mais j'ai croisé un ami dernièrement qui est complètement fou et passe sa vie de bar en bar ou de théâtre en théâtre. Un peu comme nous, en fait, Léa. Je me rends compte qu'on a une vie dissolue, en fait.
Ça va.
Mais écoute, il y a une bouteille de bière entre nous. C'est un peu mon phare culturel, cet ami. Celui, pas la bouteille, c'est celui qui met qu'il est intéressé par tel événement sur Facebook et du coup Facebook me le montre dans mon fil d'activité et du coup je me dis « Ah, je suis intéressée par tel événement » et du coup la plupart du temps, eh bien, je n'y vais pas. Là, honnêtement, je n'ai pas vu ce dont je vais vous parler, mais je suis intéressée sur Facebook. Il s'agit de Macbeth, dont nous avons parlé entre deux bouchées avec mon ami de Tacos, près du canal Saint-Martin, dont je vous recommande la vue d'ailleurs. Allez au Sol Semilla, ils vendent des poudres magiques pour que les bobos se sentent en forme. Bref, Macbeth, vous connaissez, bon, se fend pas trop la poire devant, et il paraît que là, la fin est particulièrement glauque. Ou plutôt sanglante, car vous savez que glauque désigne à l'origine un machin plus ou moins verdâtre et qu'a priori, si vous allez bien ou que vous n'êtes pas Shrek, votre sang est plutôt rouge. Bon, en l'occurrence, un monsieur se retrouve décollé, aka décapité à la fin.
Oui, le glauque est une couleur, Sarah. Et alors ce monsieur, est-ce qu'il a une particularité ?
Oui. En fait, c'est un effet très bien réussi d'ailleurs pour l'histoire du sang. Ben, ce monsieur, c'est Macbeth, il est joué par un acteur noir et c'est assez rare, il me semble, que l'on donne un premier rôle à un comédien noir pour une pièce aussi classique. Et ce n'est pas tout, c'est surtout un excellent comédien, m'en a soufflé la critique louisienne. Mon ami s'appelle Louis. Voilà, et la mise en scène est de Stéphane Braunschweig. Pardon pour la prononciation, Braunschweig, je ne sais pas. C'est jusqu'au 10 mars à l'Odéon et il paraît que c'est génial. Bon, je ne vous en dis pas plus aujourd'hui, mais restez sur nos ondes, pour écouter nos ondes d'abord, et ensuite parce que vous aurez un compte-rendu après les vacances. Bon, Léa, à ton tour maintenant là, de passer sous le couteau. Qu'est-ce que tu as fait d'intéressant à Lyon ?
Bah écoute, samedi, j'ai été voir une pierre.
Waouh, tu as des journées mouvementées.
Bah attends, c'était pas n'importe quelle pierre. C'est une pierre qui fait du son lorsqu'on la touche. Et puis, pas n'importe quel son. C'était les sons de Lyon. Bon, alors je te raconte un peu plus cette expérience. C'est un peu comme la première errance de Maé. Vous avez devant vous une carte de Lyon. Et quand vous effleurez la pierre, elle fait un son différent selon ses facettes et selon votre toucher. Alors au début, vous êtes un peu circonspect, vous y allez doucement et vous entendez quelques sirènes de police. Puis ensuite, vous y allez plus franchement, vous la pressez plus fort et vous entendez les discussions des passants de plus en plus distinctement. Vous y allez avec les deux mains, les sons se mêlent et tout en regardant la carte de Lyon, vous avez tout d'un coup le sentiment de vous y promener, donc par le bout des doigts et avec vos oreilles.
Alors j'imagine que les sirènes, c'était plutôt quand on appuyait sur Gerland, tout ça.
Mais non, on ne touche pas la carte, on touche seulement la pierre. On a la carte sous les yeux.
Pardon, et comment ça marche?
Alors, quand on regarde la pierre, on n'y voit aucun capteur. Enfin, absolument rien qui nous indique le fonctionnement de cet objet. Alors bon, j'ai demandé comment ça marchait. En fait, elle est enduite d'une substance qui capte tous les mouvements de la main et qui les transmet au système informatique qui est caché dans le socle. Ce dernier sélectionne des sons en fonction de la pression qui est exercée sur la pierre. Mais tout ça, quand on est devant l'œuvre, est tout à fait invisible. Donc ça procure une expérience assez magique, parce qu'on a la sensation de déshabiller la ville et de rentrer dans la plus grande intimité de sa musique, simplement en caressant une pierre brute.
Alors, si on remplaçait le V par un F, ce serait peut-être plus intéressant. Et qui a eu cette bonne idée?
C'est Yang Tzu-Chang, une artiste taïwanaise qui vit actuellement en Chine. Elle avait fait une résidence à Lyon en 2017, et c'est à ce moment-là qu'elle a recueilli les sons qu'on entend quand on touche cette œuvre, qui s'appelle Imprint of the City. Yang Tzu-Chang, en fait, elle travaille beaucoup sur les matières sonores et à partir de l'audio, elle explore les connexions entre expériences vécues et imaginaires. Alors les sons qu'elle choisit, ils font souvent comme des sortes de filets vers des zones un peu reléguées de notre mémoire. Ils viennent tirer quelque chose d'étrangement intime, comme si l'artiste était capable de sonder une strate collectivement refoulée, de souvenirs restés coincés dans une sorte de latence, qu'elle pouvait en faire émaner quelques bouffées aux spectateurs. Donc c'est avant tout des expériences, et des expériences qui peuvent laisser un peu fébrile.
Comme quand on déshabille la fille, par exemple. Et où est-ce qu'on peut aller voir l'œuvre dont tu parlais?
Vous la trouverez au 11 quai de la Pêcherie. C'est au bord de la Saône, au niveau des taureaux. Des taureaux. À peu près. C'est dans la galerie BF15 pour une exposition collaborative qui s'appelle Stone. On peut aussi y voir une œuvre de Sarah Del Pino qui s'intéresse à la dimension organique de la Terre et propose d'écouter sa sonorité propre avec une vidéo qu'elle a choisi de placer au sol. On y voit aussi trois œuvres de Damien Fragnon qui a placé ici des fausses météorites et des vraies coordonnées GPS, proposant aux spectateurs d'aller en imagination les retrouver.
Et est-ce que tout cela est organisé pour une raison?
Oui, Sarah, et voici notre transition toute faite. Vous l'aurez remarqué, je vous parle beaucoup de son ce soir. C'est que cette exposition joue le rôle de préface en quelque sorte pour la Biennale Musique en scène, parce que le Lyonnais aime la Biennale. Alors qu'est-ce que c'est que cette Nouvelle Biennale? On a un événement qui souhaite porter sur le devant de la scène la création musicale contemporaine.
C'est-à-dire bizarre.
Atypique. Alors, quel est l'imaginaire sonore des compositeurs de ce début du XXIe siècle? Il semble en effet que leur son n'arrive finalement que rarement à nos oreilles. Alors si on lit un peu l'édito, il semble qu'on accuse encore le coup de l'implosion de ce qui était jusqu'au siècle dernier la référence en Occident, le système tonal. Difficile, en effet, pour nos oreilles un peu réac, de s'en défaire. Pourtant, la balade peut valoir le coup. Car alors, du musical, on se déplace vers le sonore en général. Voici alors la brèche ouverte pour une myriade d'expérimentations, désormais vastement alimentées par l'électronique. Force est de constater qu'on travaille aujourd'hui sur ce champ sonore, un peu comme on travaillerait sur le champ visuel.
Ou de coton.
Au moment où ces deux espaces semblent donc plus que jamais se retrouver, on décide de marquer le coup, voire d'enfoncer le clou, en nous proposant des spectacles qui exploitent la proximité de nos cultures visuelles et auditives. Un programme pour prêter attention au corps dansant du musicien, au geste musical du danseur, tout cela en passant de la contrebasse au synthétiseur. Toutes les innovations sont permises, donc du saxophoniste aux yeux bandés à Beethoven interprété par un chœur de smartphone. Le spectateur est d'ailleurs convié à participer en téléchargeant l'application sur sa plateforme favorite. Encore une fois, pourquoi pas?
Il giornale radiofonico dell'amplificazione.
Sur transistor.
Allez, olé, on chausse nos crampons et c'est parti pour un soir. Rebonsoir François René.
Et rebonsoir Rémi.
Un entraîneur,
ça doit être entraînant.
Oui, mais là ça pique.
Respectez!
Enfin, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud.
C'est moi qui l'année dernière, non, en anglais.
L'année dernière, on n'avait pas d'opium, hein, je te rappelle.
Ah, quel scandale cet arbitrage, c'est invraisemblable.
Et du coup, on parle foot, François René.
Et oui, hier, c'était les huitièmes de finale de la Ligue des Champions Real-PSG. Alors avant de parler du match lui-même, je veux témoigner, au nom des fans de football, du terrible dilemme qui fut le nôtre hier, car chacun était sommé de faire un choix cornélien entre ce match, qui promettait tant, et plus prosaïquement la Saint-Valentin. Le Gorafi Sport, qui sait se montrer compréhensif dans de telles occasions, proposait les 5 restaurants les plus romantiques où se rendre pour regarder le match. Pour ma part, je ne fêtais pas la Saint-Valentin, mais j'étais bien dans un restaurant pour un anniversaire surprise. Et Dieu sait que les convives attablés à mes côtés surent faire montre de patience. Et même, oui, j'ose le dire, de grandeur d'âme. Quand de temps à autre, je jetais un regard avide vers l'écran et oubliais le cours de la conversation. Mes efforts et mon soutien spirituel à distance ne furent néanmoins pas d'une grande aide aux Parisiens. Défait 3 buts à 1 dans le stade madrilène surchauffé.
La régie jubile.
Oubliez les problèmes des dernières semaines, l'équipe de Zizou était offensive, tranchante même, multipliant les assauts vers le but parisien d'Alphonse Areola, dont les cages tremblèrent 2 fois dans les dernières minutes, transformant un match nul plus que prometteur en une défaite compromettante. Reste un espoir relativement ténu de rattraper le retard au match retour. Selon les statistiques de l'UEFA, 33% des équipes qui ont perdu 3-1 à l'aller se sont finalement qualifiées pour le tour suivant.
Alors si la statistique le dit, ça ne peut que sourire au Paris Saint-Germain, merci beaucoup.
33, on croise les doigts.
Il y a des chances, on ne sait jamais. C'est peut-être que tu réussiras à prendre ta revanche toi-même sur Marie, qui va immédiatement nous envoyer le jingle de l'édito scientifique avec une petite surprise à la clé.
Air-conditioned bunker where the Norwegians have stored heritage.
Pour revenir aux origines du massif hercynien, il faut faire un bond de
90% of blue and red light is absorbed in the upper one-fifth of a spinach leaf.
Le paramètre qui va caractériser l'ordre du système va être discontinu à la fin.
Bonsoir Pierre.
Bonsoir Rémi.
Eh bien, je t'en prie.
Oui, alors ce n'est pas Pierre, c'est Félix, mais tout ça pour vous dire que c'est un véritable cataclysme qui s'est abattu la semaine dernière sur le monde des astrophysiciens. On se rappelle l'annonce en novembre 2015 de la découverte de marbrures à la surface de Mars, qui était une preuve irréfutable que de l'eau avait coulé sur la planète rouge. Sauf que toutes ces preuves irréfutables finissent par être démontées, et c'est exactement ce qu'il s'est passé.
Et alors, quelles étaient ces preuves justement que ces traces étaient bien dues à de l'eau ?
En fait, les images prises par la sonde Mars Reconnaissance Orbiter présentaient d'étranges traînées noires sur les flancs escarpés de montagnes martiennes. Leur couleur noire laissait penser que c'était de l'eau très fortement salée qui avait coulé là. Or, les physiciens se sont empressés de vérifier si de l'eau salée pouvait effectivement laisser de telles traces. Rappelons que sur Mars, il fait entre -143°C la nuit et -20°C le jour. Et comme la pression atmosphérique est bien plus faible sur Mars que sur Terre, l'eau aurait dû s'évaporer très rapidement. Mais des expériences en laboratoire ont montré que de l'eau suffisamment salée pouvait résister à de telles conditions assez longtemps pour laisser ses marques. Autre preuve, les rovers martiens ont trouvé des échantillons de perchlorate près de ces coulées, qui sont des composés chimiques ne se formant qu'en présence d'eau. Tout semblait concorder.
Mais alors Félix, pourquoi est-ce que ces preuves ne tiennent pas ?
Et ben, en fait, un groupe de chercheurs de l'université d'Orsay affirme avoir réalisé en laboratoire des marques similaires en milieu totalement sec. Il s'agirait en fait de vulgaires avalanches de sable. Et la couleur noire, me direz-vous, simple jeu d'ombre non pris en compte lors du traitement des images satellites. Et les perchlorates ? Réponse typique du scientifique qui ne sait pas, ils doivent être là par pur hasard.
Oui, alors j'arrive quand même pas trop à comprendre pourquoi des avalanches de sable se seraient déclenchées dans l'espace. Quand même que quelque chose les déclenche, ces avalanches.
Effectivement, sur Terre, les avalanches de neige sont causées par l'action du vent sur un manteau nuageux particulièrement instable. Mais il n'y a pas de vent sur Mars. L'apparition de tels phénomènes est due à l'effet Knudsen. Sous l'action du Soleil et à cause de la faible pression atmosphérique, le gaz entre les grains de sable se mettrait en mouvement, entraînant une partie du sable et déclenchant ces avalanches. Le seul petit problème, c'est que l'on pensait jusqu'à présent que cet effet n'avait que des conséquences minimes et ne permettait pas de mettre en mouvement assez de matière pour être observable. L'équipe d'Orsay a alors montré que les effets d'ombre étaient déterminants. En effet, la seule source de chaleur à la surface de Mars est le Soleil. Pendant le jour martien, celui-ci chauffe la surface, et donc le gaz entre les grains de sable. Mais si jamais une partie de ce gaz chauffé, se retrouve à l'ombre, sa température chute très vite en surface, mais pas en profondeur. Et comme le gaz est moins dense quand il est chaud, les deux masses gazeuses ne sont pas à l'équilibre, Elle se met en mouvement et déclenche une avalanche de sable. Ces jeux d'ombre et de lumière permettent de décupler la force de l'effet Knudsen tel qu'il est normalement observé sur Terre. Le modèle développé à Orsay n'est pas encore parfait, car il ne permet pas d'expliquer les fluctuations du nombre et de l'intensité des avalanches au cours de l'année martienne, mais les physiciens se sont d'ores et déjà résignés à trouver de l'eau liquide à la surface de la planète rouge.
Merci beaucoup Félix pour cet édito scientifique que tu lis en lieu et place de Pierre, qui n'a pas pu être avec nous ce soir, mais qui sera bientôt de retour dans vos oreilles, chers auditrices, chers auditeurs. Et puis on remercie encore une fois Félix, qui vient de sa régie pour venir parler dans le micro,
d'une
très lointaine contrée de l'autre côté de la vitre. Il est 20h57 sur Transistor, et une fois de plus, et je crains que la Greg n'emporte définitivement en courte, et oui, chers auditeurs, il va falloir faire une croix sur la meilleure chronique de cette émission, mais malgré tout, pour vous consoler, je vous donne quelques petits conseils radiophoniques pour ce moment terrible où l'amplifié se termine et où soudain vous voulez nourrir vos oreilles de quelques bonnes radios. Je vous suggère donc le documentaire Bribes sans abri, produit par Franck Larose avec Aurélie Julia et une musique de Charles-Éric Péard, qui a été diffusée il y a quelques semaines par Irène Melyamenko dans Création en air sur France Culture. Bribes sans abri, c'est justement un documentaire sur les sans-abri, sur ces sans-abri qui vivent dans la gare de Lyon et qui nous emmène à la rencontre de ces personnes, de leur univers et nous les fait rencontrer avec une tendresse et une douceur qui sont assez inhabituelles dans ce genre de documentaire où on s'habitue plutôt à une forme de presque de misérabilisme. En tout cas, c'est pas enregistré avec cette conscience sociale qu'on trouve dans tous les documentaires du genre, mais bien avec une forme de tendresse qu'on retrouve entre autres à la fin dans une lecture magnifique d'un poème de Rilke, et puis également dans ces bruits de la gare qui sont mis en musique régulièrement pour donner cette espèce de sensation d'immersion. Ça fait un tout qui est extrêmement cohérent, qui est à la fois extrêmement beau à écouter et peut-être d'autant plus touchant dans la mesure où les témoignages sont d'autant plus percutants qu'ils sont environnés de tous ces sons, de toute cette musique qu'il y a autour. Et nous terminerons donc cette émission avec quelques petits bruits de la gare de Lyon montés par Franck Larose. Et sur ces quelques sons ferroviaires qui nous donnent soudain envie de saluer le fondateur de l'Amplifié parti pour de lointaines contrées à qui l'on dit bonjour, nous terminons donc cet Amplifié, une émission coordonnée par Rémi Cerda avec aujourd'hui Maë Burla, François-René Julliard, Marie Blanc, Marie Lécuyer, Robin Lenoir, Sarah Andria, Léa Jusso et Félix Barancy, avec donc la préparation du billet scientifique par Pierre de Dieu et puis à la régie Félix Barancy, Marie Lécuyer que nous remercions chaleureusement ainsi que les équipes de NS Média pour leur soutien dans la diffusion et la préparation de cette émission. On se retrouve dans 2 semaines en direct sur Transistor. Soyez sur notre site transistor.fr à partir de 18h. Ça commence plus tôt avec plein d'émissions en attendant la journée de la radio qu'on prépare activement, sachez-le, en buvant du vin rouge. Bref, la semaine prochaine, 18h sur Transistor et puis à 20h pour ceux qui ne veulent écouter que la meilleure émission de cette chaîne, à savoir l'irremplaçable journal radiophonique amplifié. Bonne soirée.